4 €, 5 €, 5 €, 5 €, 5 €.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud aux pousses d'épinards. Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien le bonjour les amis, ça y est, nous y sommes, soyez les bienvenus, nous sommes en direct du salon Made in France, porte de Versailles à Paris. Alors des cornichons français, du beurre, du quinoa, du bœuf, des pommes locales, on croque le bleu blanc rouge ce samedi. Arnaud Montebourg et le chef David Radgaber seront avec nous pour débattre autour du Made in France, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, vous allez entendre. Et je ne suis pas tout seul, vous pensez bien, ma bande est là, gourmande et très sélective, elle ne se laisse pas séduire, je peux vous dire, par n'importe quel produit Made in France, c'est Charlotte Langrand du journal du dimanche. Bonjour, bonjour Charlotte.
Bonjour Olivier.
Il n'a pas de béret ni de baguette, mais il a toujours une bonne bouteille sous le bras. C'est le Belge Olivier Pouls au salon du Made in France.
Et un tire-bouchon français, bien sûr.
Ah ben il y en a plein. Oui, il y a de beaux ustensiles ici, c'est vrai. Hein.
Et bonjour
de beaux
Laurent,
couteaux.
Bonjour,
bonjour Olivier. Marion Sauveur sera de la partie avec son journal de la cuisine. Jean-Luc Petit-Renaud poussera un cri d'alarme sur les pommes de nos régions tout à l'heure. Et nous partagerons un plat du jour 100% Made in France. Alors avec une actrice que nous sommes ravis de recevoir à cette table, c'est la délicieuse Marlène Jobert qui sera là tout à l'heure. Avec son dernier conte pour enfants. Et bien voilà, comme on dit ici, cocorico, c'est l'heure de se mettre à table. Alors, vous le savez, chaque semaine, on revient sur les goûts qui ont marqué notre semaine. Moi, j'en ai eu plein personnellement cette semaine-ci. On va voir si c'est votre cas. On va commencer par vous, Charlotte Langrand.
Oui.
Votre goût de la semaine.
Alors moi, c'est l'avant-poste. Après les résistants, c'est Florent Pierre qui récidive avec un deuxième restaurant engagé dans la défense de l'agriculture paysanne et de respectueuse de l'environnement. Il sert des produits de 300 artisans et paysans dans des assiettes à partager, prouvant qu'un autre modèle de restauration, même en plein Paris, c'est possible.
C'est à Paris.
C'est à Paris, au 7 rue de la Fidélité.
D'accord, très bien. Donc l'avant-poste à Paris, un nouveau restaurant. Olivier Pouls, votre goût de la semaine.
Eh bien, j'ai lu, j'ai bouquiné et ça a été assez ardu parce que le livre dont je vais vous parler demande quand même un petit peu de concentration. Il s'agit du livre du professeur, du docteur Marc Lagrange, qui est un chirurgien spécialiste du système digestif et qui a
compilé... Qu'est-ce qui vous arrive de lire des trucs pareils?
Non, mais alors écoutez, le titre, c'est « Vin et santé, qu'en pensent les médecins ?» Alors il a compilé plusieurs dizaines d'études, de publications qui ont été réalisées sur ce sujet très controversé, on le sait. Alors, je m'empresse de préciser que Marc Lagrange est un grand amateur de vin, mais il ne prend pas vraiment parti. Il essaye surtout de remettre en perspective les chiffres, les annonces des uns, des autres, etc. Au final, on se rend compte que il peut y avoir probablement un certain nombre de vertus à boire du vin, mais que la modération s'impose toujours. Ce n'est pas non plus une ode à l'alcoolisme, n'exagérons pas.
Est-ce qu'il compare la digestibilité des vins nature et des vins conventionnels, par exemple ?
Oui, il aborde tous les sujets, y compris effectivement le rôle des sulfites dans le vin.
Très bien. Redites le titre.
Alors, le livre s'appelle « Vin et santé, qu'en pensent les médecins ?» et c'est aux éditions France Agricole.
Merci Olivier. Alors, mon goût de la semaine, il est sucré, figurez-vous. C'est un jeune chef pâtissier d'une trentaine d'années qui s'appelle Julien Lambert, il était Épinal. Ça s'appelle Julien Lambert.
C'est pas sur votre terre, ça, par hasard ?
Non, c'est c'est sur mes terres, absolument. Oui. Et je l'ai découvert cette semaine. C'est juste en face du musée d'art contemporain d'Épinal. Il a fait ses classes à Hong Kong. Il a travaillé aux côtés de Thierry Marx, de Pascal Lac, qui est un de nos grands pâtissiers. Ses pâtisseries sont ultra raffinées, pas chères et pas trop sucrées. Il fait un cheesecake, par exemple, au Bluet des Vosges. Il fait également un suprême. Il fait un délicieux dessert avec les dernières framboises de saison. Il s'appelle Julien Lambert. Voilà. Allez, c'est l'heure d'aller au marché. Alors, vous pensez bien que nous allons le faire dans les allées du salon. Pourquoi achetez-vous Made in France ? Est-ce que c'est meilleur ? Vos réponses au micro de Julien Amat.
On a plaisir à venir justement voir les producteurs français.
Encourager les gens à consommer français, voilà. Faire travailler les gens de chez nous, de voir des jeunes, jeunes qui y croient.
Pourquoi j'achète français ? On est franchement déçus de beaucoup de produits qui viennent de très loin, de l'étranger. On ne sait pas du tout comment ça a été traité, quelle est sa qualité. Sur ce salon, ça nous permet de rencontrer ceux qui fabriquent et de comprendre beaucoup de choses.
Et nous avons à proposer aujourd'hui au MIF trois affinages de comté, en commençant par du 18 mois, 30 mois, 42 mois, ce qui est assez rare.
On a mangé du saucisson, j'ai mangé du chocolat, j'ai goûté des vins. Made in France, produit fait en France, pourquoi pas. Même si le côté éthique est important, je suis d'accord, mais en fait l'éthique ne va pas remplacer le goût.
On vient d'arriver, on fait le tour, on repère et après on va revenir.
C'est vrai que l'éthique ne remplace pas le goût. C'est pour ça qu'on va faire un petit panorama du meilleur des produits Made in France qui sont autour de nous sur ce salon. 42 mois d'affinage, ça donne envie de goûter quand même, là.
Oui, c'est vrai qu'en matière de fromage, le Made in France reste quand même probablement ce qui se fait de meilleur au monde, ou en tout cas, on n'a pas beaucoup d'échalages.
Ah non, sur le fromage, c'est bon, hein, on se défend.
Sur le fromage, sur le vin, mais sur plein d'autres choses plus surprenantes, et on va en parler dans cette émission, il y a des produits français qui sont absolument magiques. Et bien sûr que quand on a le choix, quand on peut acheter à nos producteurs autour de chez nous, c'est un acte politique.
Ça vous motive, Charlotte Langrand, d'acheter Made in France quand vous faites vos courses ?
Oui, ça me motive. Et puis c'est quand même garant de certaines normes européennes quand même et françaises. On sait quand même mieux comment ils sont produits, avec qui. Et puis ça incarne les produits avec les gens qui les font. Ça remet les producteurs et les artisans.
Exactement. Et ça raconte une histoire. Quand vous venez ici au salon du Made in France, moi je me suis baladé en arrivant ce matin. Il y a quelque chose qui est marquant, c'est que ça sent la qualité. Ça transpire la qualité sur tous les stands que l'on peut voir. Il y a notamment à côté de nous une manufacture qui s'appelle la Manufacture des Compères, qui fait une magnifique trousse à couteaux pour vos ustensiles de cuisine. Il y a plein de belles choses autour des arts de la table au salon du Made in France. Et nous y sommes ensemble jusqu'à 12h30 avec Arnaud Montebourg qui va nous rejoindre dans un instant. On va débattre aussi avec David Radgeber, qui est un chef cuisinier engagé pour le Made in France. Et comme le dit la signature d'Europe 1, le monde change, l'actualité de nos assiettes aussi. On en parle juste après ça.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Merci d'être là les amis, nous sommes en direct du salon du Made in France à Paris, porte de Versailles. Nous allons recevoir dans un instant Arnaud Montebourg avec son beau miel bleu blanc ruche. On va débattre du Made in France avec lui. Et puis le chef David Radbeger qui était déjà au platine, j'allais dire, mais non, à la plancha, pour nous faire une recette en direct dans un instant. Je pose une question les amis ici, que serait notre gastronomie française sans le beurre? Hein, ça, c'est une belle question.
Alors, si vous demandez ça à un Marseillais, vous direz l'huile d'olive.
Et évidemment.
Mais
si vous allez vers la Normandie.
Mais si on va vers la Normandie, elle ne serait pas grand-chose.
Et la Bretagne, que dire? C'est vrai qu'on a quand même trois beurres en France qui bénéficient de l'appellation d'origine protégée. Il y a le beurre du Poitou, il y a le beurre AOP de Bresse et puis le beurre de Normandie, le beurre Normandizini. Et pour en parler et pour en manger, nous accueillons Jean-Pierre Salliot, maître beurrier de l'appellation d'origine protégée d'Isigny-sur-Mer. Bonjour, maître.
Bonjour Laurent.
Maître beurrier, mais quel beau métier, quel joli nom quand même.
Tout à fait.
Vous l'avez mis en gros sur votre carte de visite, j'espère. Hein ?
Oui.
Hein, on est d'accord. Alors la Normandie, c'est quand même le terroir du beurre. Il y a une belle histoire du beurre autour de la Normandie. L'appellation beurre désigné, elle comprend combien de communes à peu près ?
193 communes.
D'accord. Vous faites du beurre depuis combien de temps, Jean-Pierre ?
Depuis l'âge de 14 ans.
Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ? Vous le connaissez bien, le beurre de Normandie ?
Le beurre de Normandie, c'est la tradition. La tradition est toujours la tradition. Donc l'appellation d'origine protégée a été obtenue en 1988. Et bien sûr, nous avons une zone géographique qui est extraordinaire, située dans la baie des Vais. Et si on la regarde de près, elle ressemble à un croissant. Elle vient contourner la mer qui est juste à côté. Et les embruns nous ont apporté plein de belles choses, des oligo-éléments sur l'herbe. Et bien sûr, cette herbe-là, on va la faire manger à nos vaches. Et derrière, avec un bon produit, on doit fabriquer un bon beurre.
Ça ressemble à un croissant, un joli croissant au beurre alors.
Tout à fait, tout à fait.
On est en plein dedans. Alors pour faire du beurre, il faut du lait, bien entendu. Dites-nous tiens, un petit peu le ratio, nos auditeurs ne le savent pas forcément. Combien de litres de lait faut-il pour faire un kilo de beurre par exemple?
Alors on va partir d'un bidon de 20 litres. C'était l'unité qui était très connue. Les 20 litres de lait, on va les passer dans une machine qui s'appelle une écrémeuse. Et le but, c'est de sortir d'un côté le lait écrémé à raison de 18 litres. Et on va sortir donc 2 litres de crème. On est parti à 41 pour 1000 sur le lait et on va sortir de la crème à 41 pour 100. Et derrière cette crème-là, après bien sûr l'avoir faite maturer lentement, en respectant tout le développement de cette flore microbienne, de l'ordre de 18 heures à des températures qui sont plutôt vers 15-16 degrés. Et derrière cette crème-là, elle va donc rentrer le lendemain, après cette maturation lente qu'on l'appelle, elle va donc rentrer dans la baratte. Et j'ai donc dit 2 litres, et 2 litres dans la baratte. Je vais donc pratiquer le baratage. Hein, c'est le...
Et oui, vous êtes venu avec votre baratte. Alors allez-y, barattez, vous occupez pas de nous s'il faut barater, parce que comme vous le dites, c'est une étape importante du beurre. On va faire du beurre en direct ici au salon du Made in France, Porte de Versailles. Une vraie belle baratte traditionnelle en bois, Olivier Pouls.
Oui, ça ressemble en fait à une espèce de tonneau, et puis dedans, il y a un moulin qui tourne avec des pales, et petit à petit, la crème durcit et devient du beurre.
Alors, orgue à musique.
C'est vrai, c'est un petit orgue de barbarie, mais ça fait du beurre, ça chante le beurre.
Ça chante le beurre.
Le barattage, c'est une étape importante, Jean-Pierre, mais il y a une autre étape importante que les gens ne connaissent pas forcément, c'est le malaxage.
Ah oui, alors le malaxage, donc on va le pratiquer après l'obtention du beurre. Et c'est très important, cette étape-là, c'est de rendre le produit le plus homogène possible.
C'est ça, qu'il soit bien souple. Vous avez un mot en Normandie, d'ailleurs, pour dire ça, non ?
Pour malaxer ? Non,
il faut... Pour dire la texture du beurre, vous dites qu'il est souple, c'est ça ?
Il est souple, ouais. Il a une coupe franche, il est homogène sur la tranche, il présente un produit, on va dire un produit gourmand, quoi. Alors, il faut rappeler que c'est fait 82% de matière grasse pour le beurre doux. Il y a donc 16% d'eau, mais ça c'est la législation qui le permet, et il y a 2% de non-gras qu'on appelle, c'est-à-dire protéines, lactose et sels minéraux.
C'est ça, et quand on veut faire du beurre clarifié, on va faire chauffer ce lait, on va retirer le petit lait justement pour avoir un beurre qui se conserve plus longtemps. Vos commandements, tiens, pour choisir un bon beurre, il y a la couleur déjà, Jean-Pierre.
Oui, alors la couleur, vous savez qu'on l'obtient, la couleur elle est attachée par un système de pigmentation au globule gras. Alors, je vais expliquer rapidement. Donc, le lait, vous le trouvez d'une couleur, on peut dire blanc, un peu plus blanc, enfin, plutôt ivoire. On va passer à la crème. Non, on a un ivoire qui est déjà bien teinté parce qu'on a déjà concentré la matière grasse. Et comme la pigmentation est attachée et collée au globule gras, donc c'est une logique. Et comme de 2 litres de crème, je vais sortir 1 kg de beurre, donc je vais encore à nouveau concentrer cette matière grasse, ces globules gras, et en même temps je concentre la couleur.
Il en
donc,
parle bien, hein. Ouais, c'est précis tout ça, hein. Olivier Pouls.
Le débat entre le demi-sel breton et le beurre doux normand, votre cœur penche vers où ?
Bah écoutez...
Le doux.
Le doux, bien sûr, parce qu'on est de Normandie, mais la tendance aujourd'hui, on est parti sur le sel. Également.
Oh, c'est délicieux.
Le demi-sel, on précise bien le demi-sel. Mmh. Rien ne sert de le saler pas plus de 1% à 1,5%, pas 3. 3, ça s'appelle du beurre salé. Et nous, comme notre beurre, il a des saveurs exemplaires, on ne veut surtout pas les masquer par le sel.
Je vous félicite, il est délicieux, Jean-Pierre. Je suis en train de le goûter, je goûte le doux, mais c'est vrai qu'il y a un grand débat entre le doux et le beurre salé. Eh bien, merci d'être avec nous, Jean-Pierre. On va le déguster avec du miel dans un instant. Moi, j'adore une tartine de beurre avec du miel. Arnaud Montebourg est en train d'arriver avec son miel. David Radgeber est là pour nous faire une recette en direct. Comment acheter Made in France ? Comment bien manger Made in France ? On revient au salon et on en parle juste après ça.
Europe 1. Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Jamais. Jamais. Merci Jean-Pierre Marielle. Nous sommes 100% d'accord. Nous sommes en direct du salon Made in France. Pourquoi faut-il acheter Made in France ? Est-ce meilleur ? Comment être sûr des matières d'origine ? Nous allons en débattre dans un instant avec Arnaud Montebourg et le chef cuisinier David Radgeber. Un bel agité de la casserole, vous entendrez. Mais en attendant, c'est l'heure d'accueillir Marion Sauveur pour son journal de la cuisine. Bonjour Marion.
Bonjour à tous.
Tiens, vous qui êtes gourmande, Marion, et curieuse, vous êtes comblée ici, non ?
Oh oui, tellement, tellement. J'ai goûté. Alors, il y a un bar à mousse à chocolat chez Chapon, je vous le conseille. Et puis j'ai découvert des pâtes à tartiner, donc françaises bien sûr, Frenchy. Elles sont délicieuses à la noix de pécan bio. Il faut goûter. Hein.
Que du sucre, il n'y a pas de doute, c'est bien la vraie Marion Sauveur. Nous sommes rassurés. Allez, voici les titres du journal de la cuisine. Arnaud Donquel, sacré chef de l'année. C'est bientôt fini le foie gras à New York et des cantines récompensées. Voici le menu du journal de la cuisine de Marion. Les guides Go et Mio et Le Fooding ont dévoilé cette semaine leur palmarès 2020.
Et Arnaud Donquel, chef à l'hôtel Cheval Blanc de Saint-Tropez, a été consacré chef de l'année par le Go et Mio. Côté pâtisserie, le guide jaune a couronné Jessica Prialpato du restaurant du Plaza Athénée à Paris et Max Martin du restaurant Johan Comte en Savoie. Deux adresses, Claire et Hugo à Troyes et le Maquis à Paris, ont reçu Le Fooding de l'amour.
Alors, on en a beaucoup parlé cette semaine. Le foie gras bientôt interdit à New York.
Et en 2022, Bordeaux, il sera interdit de vendre, de servir ou même de détenir du foie gras. La Chine, par contre, va ouvrir ses frontières aux importations de foie gras de France. Et de foie gras, on va en parler, Laurent, avec vous et vos invités dans quelques instants.
Oui, et puis de la côte de bœuf made in France, du sarrasin, du miel. On a plein de belles choses à vous faire goûter. Bravo aux villes de Paris, Dijon et Fontenay-sous-Bois, Marion.
Elles ont reçu les victoires des cantines rebelles, un prix qui récompense les établissements et les communes qui œuvrent pour introduire des produits bio et locaux dans les menus de leurs cantines. Preuve donc que cela est possible.
Et puis j'y étais absolument, et c'est l'association 1 plus bio qui fait du beau travail justement à soutenir ces cantines scolaires. On passe à votre cerise sur le gâteau, Marion. Cette semaine, vous avez repéré un jeu.
Et oui, un jeu, un escape game culinaire. C'est un jeu immersif.
Tiens donc.
Alors vous devez résoudre en fait une série d'énigmes pour manger. Et l'objectif, c'est surtout de découvrir le code d'un coffre où se cache une recette secrète. C'est le premier escape game du genre et c'est l'entreprise d'événementiel lyonnaise Parallèle qui l'a créé.
Et qu'est-ce qu'on mange ?
Alors un menu végétarien, les légumes sont extrêmement bien mis en valeur, ils sont bio, de saison, c'est vraiment délicieux, mais il faut le mériter. Hein. Deux énigmes pour accéder à l'entrée, une pour le plat et encore d'autres pour aller jusqu'au dessert.
Et ça se passe où tout ça ?
Alors à Lyon et à Paris dans des tables d'hôtes, à Annecy dans un coffee shop et vous avez jusqu'au 27 novembre pour vous inscrire sur la plateforme de financement participatif Ulule. Ça coûte 49€ par personne et vous pouvez donc manger si vous résolvez les énigmes.
Merci beaucoup Marion et à la semaine prochaine, enfin restez avec nous, vous n'êtes pas loin. Hein. Manger français, nous sommes tous d'accord pour le faire. Pas toujours simple quand on sait que le café ne pousse pas en Normandie et qu'un yaourt peut parfois faire 9000 km avant d'atterrir au supermarché. Alors faites-vous attention à l'origine des produits. Êtes-vous prêt à payer plus cher pour acheter du Made in France ? Pour en débattre ce matin en direct, eh bien, nous sommes avec Arnaud Montebourg, ancien ministre et entrepreneur Made in France avec Bleu, Blanc, Rouge. Bonjour Arnaud Montebourg.
Bonjour.
Merci d'être là avec votre beau tablier. Hein.
Bah, on vend nos produits, on les fait goûter, parce que quand on goûte, on achète tellement la France des terroirs s'exprime à travers le travail de l'abeille et les végétations si riches que contient notre pays. Et les miels expriment ça, donc évidemment, c'est un grand voyage.
On va en parler justement. Et puis David Radgeber est à vos côtés, le chef de l'assiette à Paris, où il sert une cuisine française, exigeante et conviviale. Bonjour David Radgeber.
Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui.
Eh bien, ravi, puis vous allez nous faire le plat du jour en direct tout à l'heure avec Marlène Jobert, qui est notre invitée, qui va arriver dans un instant. Alors Arnaud Montebourg, on vous a vu en marinière il y a 5 ans déjà inventer les vertus du Made in France. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de Bleu Blanc Ruche, un miel français qu'on va goûter à l'instant. Se nourrir français au quotidien, première question, selon vous, c'est possible ?
Ben, vous voyez apparaître des marques équitables. La plus célèbre, c'est qui le patron ? D'ailleurs, Bleu Blanc Ruche, dans le domaine de l'apiculture, a engagé le même type de combat. Ce sont des marques équitables parce qu'elles partagent la valeur avec ceux qui travaillent, les producteurs, les apiculteurs, les agriculteurs.
C'est ça, vous allez chercher un peu partout en France vos miels. Vous dites que c'est un miel de repeuplement. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais parce qu'en contrepartie d'un prix plus élevé que nous servons à l'apiculteur, nous leur demandons d'augmenter leur colonie et leur ruche, c'est-à-dire de reconstruire à leur échelle, mais quand même de façon importante, la biodiversité effondrée, c'est-à-dire augmenter le nombre de colonies. C'est remettre des abeilles en pollinisation dans la nature. Et c'est ce que font nos apiculteurs. Par exemple, vous avez...
J'ai un miel de bruyère, là. Ça, j'adore ça, la miel de bruyère.
Ah bah alors,
le miel de bruyère.
Ça, c'est une tuerie.
Ça, c'est rare. Hein.
C'est la bruyère qui pousse au pied des pins des Landes. Et c'est le rucher du Borne, à Pontinx-les-Forges, ah ouais. qui nous l'a
parfumé, c'est un caractère.
C'est un miel extraordinaire. D'ailleurs, c'est notre meilleure vente sur le salon. On le trouve malheureusement pas en supermarché, donc on le trouve sur notre site internet, bleublancruche.fr. Mais c'est un miel, si vous voulez, qui, derrière le nom de l'apiculteur qui figure sur la capsule, c'est un miel qui engage l'apiculteur à augmenter son cheptel. Par exemple, vous avez devant vous un miel de fleurs sauvages du plateau de Mille Vaches, à 30 km au sud de Limoges. Dans le Limousin, c'est l'autre, c'est l'acacia, voilà, c'est l'autre, voilà, c'est le premier.
Voilà, c'est celui-là, voilà, très bien.
Ce miel est un miel où l'apiculteur nous a proposé d'augmenter son nombre de ruches de 300 unités. Donc l'année dernière, nos 45 apiculteurs ont installé dans leur œuvre de repeuplement que nous finançons avec l'entraide des consommateurs, 2700 ruches. Il manque 500 000 ruches au bas mot en France, 13 millions en Europe. Donc vous voyez qu'on a encore un tout petit peu de travail.
Oui, puis si on peut éviter d'importer du miel de Chine coupé au sirop de glucose, c'est bien de soutenir nos apiculteurs.
Un tiers, selon UFC Que Choisir ou la Commission européenne, des premiers prix en distribution, vous avez un tiers de chance de tomber sur du sirop de
sucre vendu au... Ça, il faut boycotter, il ne faut pas acheter ça. Non, non, les marques...
Je vous remercie de le dire, moi, je n'ai pas le droit de le dire.
Je ne
veux pas faire du dénigrement, mais enfin, vous avez parfaitement raison de le dire.
Restez avec nous, Arnaud Montebourg, achetez et mangez français, tout un programme. On continue d'en débattre avec vous. Et puis le chef David Radgeber sera là aussi pour nous parler de produits français un peu oubliés, mais bien made in France, que nous allons remettre au goût du jour. Ce sera juste après un peu de musique. Bon samedi matin sur Europe 1. Nous sommes en direct du salon du Made in France en compagnie d'Arnaud Montebourg et du chef David Radgeber. Du miel, du quinoa, du sarrasin et même des cacahuètes. Nous avons de belles ressources en France. C'est ça la France, dirait même Marc Lavoine. Eh bien, on l'écoute justement avec Gaëtan Roussel. Bon samedi sur Europe 1. On revient juste après.
Ça boit le petit noir ou le petit vin blanc. Ça cherche la bagarre et du boulot souvent. Ça lève le poing, ça bouge, ça manifestationne. Ça sort tous les samedis, dépenser son pognon. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du Laïeul à l'Opinel à partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin je pense, faut jamais les oublier, les trois mots qui terminent en T. Ça fait de l'huile d'olive et du couscous poulet. Ça trinque à la pétanque au comptoir chez Marseille. Ça brasse un ça tout va, c'est beau les seins d'une fille. Ça camembert le chinois, ça frise à la Bastille. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du Laïeul à l'Opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin, je pense, faut jamais les oublier, les trois mots qui terminent en T. Ça avale son Vichy et ça Dreyfus sa joie. Jean Moulin Rouge aussi, Pierre Bérégovoy. Sa liberté de la presse, c'est pas qu'une impression. Le plus souvent, ça OS chez Renault, chez Citron. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du Laïeul à l'Opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin, je pense, faut jamais les oublier, les trois mots qui terminent en T.
Pour fêter ses 35 ans de carrière, Marc Lavoine vient de sortir un triple best-of où on retrouve des inédits, mais aussi ses plus grands succès, comme C'est ça la France, qu'il a repris avec Gaëtan Roussel. Et on ne vous la passe pas pour rien. Et non, tout est lié sur Europe 1. Ce samedi, la table des bons vivants est en direct du salon du Made in France, Laurent.
Exactement, Justine, absolument. Et venez, à moins que vous voulez qu'on vous rapporte un petit panier garni avec le meilleur de nos produits français. Nous sommes avec Arnaud Montebourg et David Radgeber. On a parlé du miel avec vous, Arnaud Montebourg. Mon petit doigt m'a dit aussi que vous vouliez vous lancer dans la crème glacée.
Oui, nous voulons en effet installer des sorbetières chez les éleveurs laitiers pour qu'ils transforment la glace à partir de leur propre lait.
Ah, directement sur place, comme ça.
Beaucoup de producteurs bio aujourd'hui, je vous donne les chiffres, les producteurs bio... gagne environ 47 centimes, c'est le prix auquel la coopérative Biolait paye le lait au pied de la vache, si j'ose dire.
Oui, c'est ça.
En conventionnel, c'est 36-37 centimes. Donc quand on est en conventionnel, on ne gagne pas sa vie, on perd de l'argent. Quand on est en bio, on ne la gagne pas formidablement, on n'en perd pas. Notre proposition, c'est de dire, nous, on va payer 80 centimes et on va transformer la glace sur place sous la direction technique d'un meilleur ouvrier de France. Un ouvrier glacier, un maître glacier, comme vous avez eu un maître beurrier, qui va former les agriculteurs à faire de la glace. Et nous allons vendre ensemble cette glace aux Français, qui sera une glace sans additifs alimentaires, sans E, et qui sera une glace bio, naturelle et fabriquée selon les meilleures techniques de l'artisanat distingué dans notre pays.
Et vous les avez, ces éleveurs ?
Eh bien, nous sommes en train de signer avec eux. Donc, en 2020, nous lancerons cette nouvelle marque de glace bio. Je rappelle...
Donc, les éleveurs qui nous écoutent peuvent vous rejoindre, là.
Exactement. Je lance un appel dans toute la France. Tous ceux qui sont intéressés à convertir leur lait bio en glace dans leur ferme, nous le faisons en association avec eux. C'est une alliance capital-travail. Nous apportons les capitaux et les investissements. Eux apportent leur travail et leurs efforts.
L'appel est lancé sur Europe 1. David Radguébert, vous qui êtes un chef cuisinier qui appartenait au Collège culinaire de France.
Absolument.
Ça fait partie de vos vertus et de votre mission, ça aussi, de guider, d'éduquer vos clients avec des produits que vous avez sourcés, comme on dit, sur place, avec une histoire et puis des histoires surtout d'éleveurs, de producteurs derrière qui gagnent leur vie.
Absolument. D'ailleurs, je suis surpris que M. Montebourg ne fasse pas partie encore du Collège culinaire de France. Il faut absolument qu'il nous rejoigne.
Avec son un mauvais cuisinier.
Mais le Collège culinaire de France...
Non, mais il y a plein de producteurs chez au Collège culinaire de France.
Le Collège culinaire de France sont 3000 producteurs et restaurateurs de qualité qui partagent le même savoir-faire, la même envie de faire bien, de faire du français et sourcer de magnifiques produits.
Dans votre restaurant L'Assiette à Paris, dans le 14e arrondissement, David Radguébert, vous mettez aussi en scène et en avant et en cuisine des produits oubliés comme certaines lentilles et comme certains légumes secs, par exemple.
J'ai pas envie de parler de produits oubliés, j'ai envie de parler de produits ressuscités. C'est-à-dire la lentille blanche de la planèse de Serge Ramadier, le pois blond, la fève d'Auvergne.
Super, le pois blond. Il faut redécouvrir le pois blond. C'est comme un petit pois vert, mais blond, mais c'est d'une douceur absolue. Oui.
D'ailleurs, avec les voyages, l'autre fois, j'ai fait un hummus de pois blond.
Voilà, donc c'est de la cuisine fusion, quelque part. Mais avec le produit...
Comme dirait Alain Ducasse, le côté glocal, on va à l'étranger des fois et on fait de la cuisine française avec les produits sur place. C'est ça aussi.
Glocal, c'est le global qui rencontre le local, c'est
absolument.
Ça.
Absolument.
Alors, on a aussi de belles petites pépites sur notre territoire, là, Charlotte Langrand et Olivier Pouls. Qu'est-ce qu'on a en France ? On a des cacahuètes, par exemple,
oui,
Charlotte.
On a même des cacahuètes en France, oui. On en cultive à un seul endroit dans les Landes, à Souston.
Ah, oui.
Le sol s'y prête particulièrement. Il est assez sableux. C'est bien pour le drainage des eaux. C'est le seul endroit où on en cultive.
Et vous, Olivier Pouls, qui avez décidé de prendre la bonne résolution des 5 fruits et légumes par jour, vous venez seulement de découvrir le kiwi de la Dour, vous, c'est ça ?
Alors, j'en mange depuis quelques temps du kiwi. C'est vrai que c'est un peu l'emblème de l'Australie, mais on en produit également en France. On le sait pas tellement, la Dour, dans le sud-ouest de la France. Il y a un bassin qui produit de manière assez substantielle quand même des fruits délicieux et il a même droit à un label rouge et une indication géographique protégée.
Il est très bon, le kiwi de la Dour. On a de belles plantes aussi, hein, comme le quinoa, comme le sarrasin aussi, qui revient chez nous, Charlotte Langrand.
Oui, on a un agronome américain qui s'appelle Jason Abbott, qui est le premier à avoir expérimenté la culture du quinoa dans le Val-de-Loire en 2007. Et ensuite, il a été suivi par plus de 250 agriculteurs. Et puis, côté sarrasin, c'est Bertrand Larcher, le fondateur des Braise Café, qui essaye de réintroduire la culture du sarrasin en Bretagne, là chez lui près de Cancale aussi, car le sarrasin il est actuellement importé à près de 70%. Quand même.
Et parmi les produits de luxe, ce sont bientôt les fêtes, il y a un produit qu'on vient de nous servir à l'instant, écoutez bien, tenez-vous bien, c'est du caviar, le caviar de Neuvic à côté de Périgueux.
On dit pas non, hein.
Comment ?
On dit pas non là.
On dit pas non, bah oui, alors là on a la belle petite cuillère en nacre justement. C'est un produit que vous faites découvrir à vos clients. On peut faire des recettes accessibles avec ce produit-là, David Radguébert ?
Oui, absolument, on peut faire une belle petite Saint-Jacques. En ce moment c'est la pleine saison du porc en Bessin avec une petite Saint-Jacques pince-doigt, comme ça on met un peu de caviar de Neuvic. D'ailleurs j'ai un petit clin d'œil, mon ami Laure Fourgeot de la ferme du Châtain à Périgueux travaille, fait des magnifiques fromages de chèvre avec un insert de caverne de Neuvic. Ils travaillent ensemble.
C'est une caresse, hein, c'est iodé, il y a une subtilité. Arnaud Montebourg.
Délicieux, vive la France. Caviar de Neuvic, on y va.
C'est bien.
Voilà, formidable.
Heureusement que vous n'êtes plus au gouvernement, on aurait dit c'est la gauche caviar, mais là c'est bon,
moi,
c'est fini. Hein.
Mais moi je suis la France du miel maintenant.
Voilà, maintenant c'est la France du miel, de la crème glacée et des amandes aussi.
Oui, nous plantons 2000 hectares d'amandiers en France, il y en avait 12 000. Il y en avait 12 000 en 1948 dans la région de Provence. Aujourd'hui, les Français consomment 39 000 tonnes d'amandes. Ils n'en produisent que moins de 800 tonnes environ. Donc vous voyez tout ce qu'il y a à refaire. Hein, la France a besoin de, comme dire, ressusciter des productions.
C'est ça. Et ben bravo, parce que c'est vrai que l'amande californienne est très gourmand dans l'eau.
C'est du papier mâché.
En intrants chimiques. Et ben on va en reparler justement. On va parler de la bonne façon d'exporter nos pépites françaises. Vous êtes bien sur Europe 1. Il est 11h38 pile poil et on revient juste après ça.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ce samedi matin, on parcourt tranquillement et gaiement les allées du salon du Made in France, ici à Paris, à la Porte de Versailles, à la recherche du meilleur de notre gastronomie. Une gastronomie qui s'exporte, et on en parle justement avec Arnaud Montebourg, entrepreneur en miel et amandes, et crème glacée bientôt, et le chef David Radguébert, défenseur d'une cuisine française de qualité. Réagissez hein, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1, la table des bons vivants. Dites-nous ce que vous pensez de tous les produits qu'on passe au crible actuellement. Arnaud Montebourg, tiens, dans Ouest France, lundi dernier, il y a un chercheur américain qui a essayé de savoir quelle gastronomie s'exportait le mieux, et la réponse était la gastronomie italienne.
Ben, elle est,
vous en pensez quoi?
Elle est évidemment très populaire, mais je dois vous dire que en Italie il y a des choses extraordinaires, au Japon il y a des choses extraordinaires, au Maroc il y a des choses extraordinaires, en Espagne des choses extraordinaires, mais en France c'est nos terroirs qui parlent.
C'est
nos
côtes,
traditions.
Nos côtes,
et là, notre cuisinier...
David Radguébert.
Chef cuisinier va nous le dire.
Et qui défend la cuisine traditionnelle française et ce qu'on appelle la cuisine bourgeoise, hein, qui est à l'origine de tous ces plats et de ces recettes familiales qu'on fait à la maison, David Radguébert.
Absolument, les mères nourricières hein, qui au départ, nous ont transmis ce magnifique savoir... Des tourtes de canard colvert au lièvre à la royale. En
votre tourte de canard colvert est une merveille, vous savez, à l'assiette dans le 14e.
Vous vous en souvenez, monsieur Mariotte?
Oui, absolument. Hein. Comme on vous dit chez vous, on ne suce pas des feuilles. Chez
exactement,
David Radguébert,
et pas que, absolument.
Hein, voilà, il y a de belles choses.
Chez moi, il n'y a pas de fleurs. Hein. Moi, je ne suis pas un fleuriste. Hein. Je fais des vrais bouillons, moi, des vrais jus en cuisine. Hein.
Mais c'est vrai qu'on vient chez vous manger une tête de veau. On va retrouver
un cassoulet, mais on mange de tout. On suit les saisons. Ce qui est important, c'est la saisonnalité.
Ben, nous sommes bien d'accord. Le 30 octobre a été votée l'interdiction de commercialiser du foie gras à New York. Vous en pensez quoi, Arnaud Montebourg?
Il faut des mesures de réciprocité. À chaque fois qu'on subit des mesures protectionnistes, nous devons nous-mêmes l'être. Je crois qu'il est temps maintenant que nous défendions nos intérêts économiques. D'ailleurs, c'est ce que le monde entier fait. Lorsque les miels français voient les cargaisons de toute la filière hein, française arrêtées à Shanghai, et unilatéralement détruite, j'ai demandé au gouvernement français de prendre des mesures de réciprocité contre les miels chinois qui ont les mêmes caractéristiques que les miels français. Donc à partir du moment où vous avez une guerre économique, il n'est pas question que nous soyons les blessés et les morts de cette guerre. Défendons-nous, armons-nous.
Olivier Pouls.
Le pays inventeur de la malbouffe par excellence, les États-Unis, qui, au nom de le monde entier de produits,
c'est vrai,
franchement,
dégueulasse.
Assez dégueulasse, veut nous donner des leçons. Tout simplement en interdisant le foie gras. Mais de qui se moque-t-on? Enfin, c'est hallucinant qu'ils commencent par s'occuper de la nutrition correcte de leur population et de leurs enfants qui deviennent obèses les uns derrière les autres avant de vouloir venir nous donner des leçons ici en France.
Vous voyagez beaucoup, David Radguébert, hein, mais dans votre restaurant, le whisky, il sera français, par exemple. Hein.
Moi, j'ai un magnifique whisky auvergnat de l'ami Guillaume Beauté. J'essaye de trouver des spiritueux français. Je source, je cherche, je fouine grâce à Célia Tung qui est au Collège culinaire de France. Parce que c'est formidable. C'est vraiment une belle association de partage où on se réunit. Mais moi, je dis qu'il faut boycotter le bœuf Black Angus là, qui est piqué aux hormones. On a un super bœuf en France.
Ça, c'est vrai qu'on voit ça partout à la carte des restaurants.
C'est un effet
de mode, effectivement. Alors qu'on a des magnifiques races à viande en France. On a un cheptel admirable, la Salers, la blonde d'Aquitaine.
Le bœuf fin gras du Mézingue.
Ah, le fin gras du Mézingue, voilà, oui. Ça, c'est sublime, ça.
Ah oui, sur les plateaux de Haute-Loire, c'est formidable.
Et on est compétitif en termes de prix quand c'est ça, parce qu'il faut parler du prix. Toujours, le Made in France, parfois on se dit, ouais, c'est bien, mais c'est un peu plus cher. Donc comment on arrive à arbitrer pour faire manger à vos clients, par exemple, des choses de qualité en payant un petit peu plus cher ou on arrive à avoir le même prix?
Il faut les éduquer, les clients. Il faut leur expliquer l'histoire du producteur. Il faut leur expliquer l'histoire de l'agriculteur, du paysan. Il y a une vie derrière.
Et bien alors, on va vous retrouver dans un instant à la plancha pour nous faire le plat du jour en direct avec Marlène Jobert. David Radguébert, vous restez avec nous. On vous remercie, Arnaud Montebourg, d'être
venu. C'est moi qui vous remercie et bravo pour votre émission extraordinaire.
Bah, c'est gentil, la table des bons vivants. Et on retrouve vos miels, évidemment, en grande surface et sur votre site bleublancruche.fr.
Et chez Franprix Monoprix, à Auchan, à Paris.
Et bientôt des amandes et de la crème glacée. L'appel a été lancé ici en direct donc aux éleveurs bio qui veulent rejoindre les crèmes glacées d'Arnaud Montebourg. Merci, Arnaud Montebourg. Et il a son tablier et il repart sur son stand. Merci Arnaud Montebourg.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
La France, c'est le pays du fromage et du bon vin, mais c'est aussi un grenier à pommes extraordinaire. Jean-Luc Petit-Renaud nous invite à croquer les fruits défendus de nos régions. Alors, bien loin des pommes calibrées venant de l'autre bout de la planète, écoutez bien de quoi il va nous parler. Bien le bonjour, l'ami Jean-Luc.
Bonjour, les aficionados de la fourchette. Alors, j'avais envie de vous dire que ces derniers temps, je boudais les pommes parce que je les trouvais quelconques. Je ne retrouvais plus les pommes de mon enfance, les compotes de mon enfance. Et pourtant, Dieu sait qu'en France, on a les plus jolis vergers du monde dans leur diversité. Alors, on dit, bien sûr, on parle du plateau de fromage français, mais on peut parler de la corbeille de pommes aussi des Français. Ça mérite la Légion d'honneur, chose pareille. Et finalement, c'est un pharmacien qui se trouve en Normandie, à Valognes exactement, et qui est un aficionados, un fou furieux des pommiers. Et le soir, lorsqu'il troque sa blouse blanche et qu'il oublie ses éprouvettes, il rejoint ses vergers pour regarder toutes ces variétés de pommiers qu'il a plantées. Alors, c'est un enchantement, parce qu'il m'a offert une caisse de ses fruits. Et c'était un doux mélange de couleurs. Elles n'avaient pas de forme, elles n'avaient pas d'allure, elles n'avaient pas de robe, elles avaient la robe parfois un peu déchirée. Peu importe, mais elles avaient une romance. Et voici la rainette de Granville, dit-il. Ça, c'est une belle pomme normande. Et puis un jour, il m'a parlé aussi des pattes de loup, de la fameuse patte de loup qui va si bien avec la griffe de loup. Écoutez, ce sont presque des titres de poèmes. Patte de loup, griffe de loup. Et alors, c'est amusant parce que juste à côté cohabite un autre pommier qui est la gueule de mouton. La gueule de mouton tout près du loup. Eh bien, même La Fontaine n'arriverait pas à inventer une telle histoire dans un verger assis au milieu des pommiers. Allez, je vous embrasse, mes jolies pommes.
Oh, merci ma belle pomme, c'était Jean-Luc Petit-Renaud. Alors c'est amusant quand on sait qu'une pomme par jour éloigne le docteur. Venant d'un pharmacien, on prend la recommandation, Olivier Pouls.
Oui, et en plus les pommes, on peut en manger de mille et une façons. J'ai mangé cette semaine une tarte tatin avec une crème crue toute simple.
C'est un bonheur.
Pur bonheur. N'hésitez pas à mélanger vos pommes, faites une belle compote en mélangeant les différentes variétés pour avoir différentes textures.
Je suis d'accord, ouais. Et puis on les garde en matière comme
voilà,
ça, pas mixées, hein, entières.
Jamais,
ah bah non, on a encore des dents.
Il y a même une association des mangeurs de pommes.
L'association des croqueurs de pommes, effectivement, qui veille au cheptel de nos vergers et les variétés locales. Il faut préserver là aussi la biodiversité de nos pommiers. Et aujourd'hui, en lutte intégrée, on peut faire de belles pommes sans pesticides et sans cochonneries. Parce que je rappelle que la pomme est quand même un produit qui parfois supporte 37 voire 40 traitements chimiques. Donc vive les pommes, mais non trop traitées.
Et on n'achète jamais de pommes lustrées dont on a l'impression qu'elles sortent de chez le coiffeur, chez le polisseur.
Non mais c'est vrai, on fait venir des pommes d'Afrique du Sud alors qu'on dévaste nos vergers en France. Bientôt l'heure d'accueillir notre invitée, une comédienne piquante et rieuse. Depuis des années, elle enchaîne les succès avec ses contes pour enfants. Elle vient nous présenter le dernier. C'est Marlène Jobert qui sera des nôtres dans un instant. A tout de suite au Salon Made in France.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Du beurre, du miel, un dossier sur les produits made in France et dans quelques minutes une recette en direct avec le chef David Ratbeger. On mange bleu, blanc, rouge ce samedi midi. Mais pour le moment, c'est l'heure d'accueillir notre invitée. Née en Algérie, elle a grandi en Bourgogne avant de suivre les cours du Conservatoire de Paris. Elle se fait remarquer au théâtre aux côtés d'Yves Montand. Godard, Chabrol, Audiard, Belmondo, Brasseur, Depardieu. Elle a tourné pour les plus grands, avec les plus grands. Elle décide d'arrêter le cinéma après la naissance de ses jumelles Joy et Eva. Depuis, elle écrit et raconte avec succès des contes pour enfants. La délicieuse Marlène Jobert est notre invitée. Bonjour Marlène.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir.
Eh bien, je suis ravie aussi d'être ici.
Ravie d'être avec vous ici au Salon du Made in France. Alors, votre dernier conte, eh bien, alors, je vais vous dire un truc. On l'a écouté hier soir au bureau en préparant l'émission avec Eugénie, qui est la fille de notre rédactrice en chef, Lucille Escourou, qui a 6 ans et qui s'est régalée. D'ailleurs, on lui a promis, parce qu'il a fallu que je reprenne le livre, on lui a promis de lui rendre tout à l'heure ce livre de la jungle. Donc, vous avez adapté le livre de la jungle et interprété par vous. Et ce que j'aime, c'est que vous vous amusez à faire plein de voix. Vous êtes vraiment avec plein de voix différentes dans ce CD.
Oui, il y a beaucoup de monde dans le, il y a beaucoup d'animaux dans le livre de la jungle.
Et il y a beaucoup de monde dans votre tête aussi.
Ma fille Eva en interprète quelques-unes.
Oui, elle fait la panthère. Bagheera
et Mowgli quand il a 10 ans. Et moi, je fais tous les autres.
Ça, c'est une belle idée de cadeau, vraiment, pour Noël. Le livre de la jungle, c'est paru chez Glénat Jeunesse. On en reparlera tout à l'heure. Vous aimez faire la cuisine, Marlène Jobert ?
Ça dépend des moments. Il faut que j'ai envie, il faut que j'ai du temps, parce que je suis très impatiente.
Oui, mais vous cuisinez quand même régulièrement.
Je me débrouille, oui.
Ah oui, oui, oui. Ouais. C'est quoi votre petite débrouillardise préférée ? On m'a dit que vous étiez forte en salade.
Des salades. Je fais des salades qui plaisent pas mal. Et des soupes aussi. Sinon, des poissons, pas mal de poissons.
Quel est votre goût de la semaine, Marlène Jobert ?
Alors, figurez-vous que j'ai un poissonnier rue de Lévis, à côté de chez moi, qui est pas mal. Et un jour, je lui dis, oh, j'aimerais bien un beau tourteau. Ah, il me dit, c'est pas facile. Je vous appelle quand j'en ai un. Et mardi, il m'appelle, il me dit, j'en ai un, mais il fait 3,4 kg.
Oh, la belle bête.
Oui, c'est une belle bête. Hein. Alors, j'ai dit, bon, d'accord. Alors, j'ai vite invité un couple d'amis et on s'est régalé. Il n'y avait pas besoin de rien. Il était goûteux.
Il parfait. Se suffit à lui-même, voilà, avec la chair et puis ce petit côté iodé, la douceur presque sucrée, voilà, du tourteau.
Du sel, hein, dans l'eau, et c'est tout.
Combien de temps ? Cuisson courte, hein ?
Ah, ça, c'est pas moi qui l'ai fait cuire. Alors, je ne sais pas si long que ça, en tous les cas. Faut faire gaffe, parce que un petit peu trop, et c'est foutu, quoi.
Alors, Marlène Jobert, vous avez grandi à Dijon, capitale de la moutarde. Nous allons maintenant parler d'un autre condiment français menacé, lui aussi. C'est le cornichon, avec vous, Charlotte Langrand. Hein, parce que, Charlotte, la France et les cornichons, c'est une grande histoire d'amour, même si ça n'a pas toujours été si simple que ça.
Alors, dans le panorama mondial des croqueurs de cornichons, hein, la France, on n'est pas les derniers. Hein, et on a même une petite spécificité, c'est qu'on est le seul pays au monde à manger du petit cornichon.
Oui, le petit, c'est vrai qu'on aime bien vinaigre. Petit.
Dans les pays de l'Est, on aime les gros calibres, hein, les malossoles maturés dans du sel et dans de l'eau. Et aux États-Unis aussi, on met dans les hamburgers plutôt des gros cucurbitacés, hein, à la saumure plutôt aigre-douce.
Nous, en France, on les aime bien relevés, quoi. Hein.
Oui, c'est ça, on préfère qu'ils piquent, on préfère qu'ils craquent. Hein,
faut que ça croque, oui.
Voilà, faut que ça croque. Donc, du coup, on les met dans une aromatique plutôt épicée avec de l'estragon où l'acidité domine. Mais c'est pas pour autant qu'on peut souvent croquer dans un cornichon français.
C'est ça le problème, oui.
Il y a 95% de la production qui vient de l'étranger, surtout d'Inde, parce que la main-d'œuvre est bon marché. Et oui, ces cornichons du bout du monde qu'on retrouve dans tous nos supermarchés, ils sont traités aux pesticides, aux conservateurs pour résister aux insectes, à la chaleur locale et au transport.
Mais rassurez-nous, nous sommes au salon du Made in France, ici, Porte de Versailles. Il existe bien des cornichons Made in France.
Je vous rassure, le cornichon bleu, blanc, rouge agite encore le bocal. Il y a quelques irréductibles gaulois. On prend la maison Marc, par exemple, qui a été fondée en 1952.
Ah, voilà.
Les petits-enfants ont
j'en ai un,
continué,
là.
Voilà. Ils ont continué le travail à produire.
Ah,
cet hiver, après le départ des industriels en Inde, ils ont continué la production et ils les font sans pesticides, sans conservateurs, selon la recette du grand-père. Mais vous pouvez aussi manger le cornichon du pays ami. Le cornichon du pays ami, c'est le cornichon corse.
Oh, la Corse.
De la super petite marque de confiture Anatra Conserverie Moderne, qui produit à la main une petite quantité de cornichons dans le sud de Bastia. Et ils font une marinade pendant tout l'hiver avec des poivres différents chaque année.
Ah, c'est bien,
c'est
ça.
Vraiment délicieux. Et sinon, sur le salon, vous pouvez faire un tour du côté de la marque Jardin Dorante, qui a plusieurs gammes, dont une qui est faite avec des cornichons français qui sont du Loir-et-Cher et de la Sarthe.
Oui, il faut bien demander parce qu'ils ont deux gammes. Hein. Il y en a une spécifiquement, voilà, avec des cornichons made in France. Exactement. On les trouve facilement, tous ces cornichons ?
Alors, on les trouve surtout dans les étals des épiceries plutôt pointues, hein, parce qu'ils ont un coût, évidemment. Hein, la maison Marc, c'est entre 8 et 9 euros le pot. Mais sinon, on peut les faire soi-même. Hein. On va sur le marché,
évidemment.
En juillet, on les prend, on les froid.
C'est pas la saison, mais en été, bien sûr.
On les met dans du vinaigre, on les déguste l'hiver.
J'ai été élevé aux cornichons maison. Vous aimez les cornichons, Marlène Jobert ?
À petite dose, oui.
Et la moutarde, vous qui venez donc de Dijon ?
Dijon, il y a de la bonne et de la moins bonne.
Alors, on en a une très bonne pour vous, c'est la maison Fallot qui vous l'offre. C'est la vraie moutarde traditionnelle de Dijon. C'est la vraie qui est faite avec des graines de moutarde cultivées en Bourgogne et moulues à la meule de pierre, comme à l'ancienne en Bourgogne. Il y en a deux petits pots pour vous, voilà. On vous en parlerez tout à l'heure, mais ça nous fait plaisir. Ne bougez pas, c'est bientôt l'heure du plat du jour. Et le chef David Radgeber est en ce moment derrière sa plancha. Qu'est-ce qu'il va nous faire, David ? Une petite idée ?
Alors là, j'ai fait un petit tour au marché. Là, j'ai trouvé des pâtes alpinas de Savoie extraordinaires et j'ai décidé de les travailler comme un petit risotto.
Eh bien, bravo.
Voilà.
Eh bien, on ne bouge pas, on attend le risotto. Restez avec nous, nous sommes en direct sur Europe 1. A tout de suite après le journal de, les titres du journal de Fabienne Cohen.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pouce d'épinard.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct du salon Made in France ici à Paris, à la Porte de Versailles. Il est midi 2. Après un cours sur le beurre et un débat avec Arnaud Montebourg, on continue de passer à la casserole les produits Made in France. Et tout ça en compagnie de notre invitée Marlène Jobert qui revient avec un nouveau conte pour enfants, le livre de la jungle chez Glénat Jeunesse. Vous vous régalez, Marlène ?
Oh, écoutez, c'est génial.
C'est le plat du jour.
Et on m'a dit qu'il avait fait ça en 20 minutes.
En 20 minutes à peine, c'est David Radgeber. Alors David, qu'est-ce que vous avez choisi comme produit pour ce plat du jour ? On y reviendra tout à l'heure, mais parlez-nous déjà des produits que vous avez repérés au salon du Made in France.
Alors j'ai repéré des pâtes alpinas de Savoie extraordinaires. J'ai trouvé de la mimolette de Normandie, de la crème de Normandie, une... Là, on a fait tout en Normandie, là. Hein. Et un sublime bœuf.
Oui, un bœuf de Normandie voilà. Aussi, ouais.
J'ai ramené un petit peu de bouillon de poule, là, du restaurant, et un peu de courge. Et je suis parti sur un petit risotto.
Il est sublime, votre risotto.
Comme la pâte, elle ressemble un peu au grain de riz. Je suis parti là-dessus. Et on a essayé de faire un petit plat canaille, gourmand.
Et ben on va le déguster, on va y revenir dans un instant. Un admirable plat du jour. C'est le type de cuisine qu'on peut retrouver dans votre livre, David. Hein, d'ailleurs, un plat pour tous chez Ducasse et Dussion. C'est des recettes généreuses à partager, quoi, en fait.
Hein. Exactement, c'est de la convivialité, de l'amour, du partage en famille ou entre amis.
Alors, Marlène Jobert, vous venez donc de sortir ce livre de la jungle, adapté et interprété par vous-même, parce que vous avez un petit peu revu l'histoire, vous amusez à raconter plusieurs personnages. Bah tiens, on va écouter un extrait justement de ce que ça donne. Il y a aussi votre fille Eva Green qui est au casting de ce joli livre de la jungle.
Mowgli était en danger. Dès le lendemain matin, elle en parla au jeune garçon.
Écoute, petite grenouille,
Oh, ne m'appelle plus petite grenouille. Je suis grand maintenant.
C'est vrai. Voilà, tu ne peux plus rester ici. Tu dois quitter la jungle.
Eh oui, faut quitter la jungle. Avec la musique, illustration sonore de Jean-François Leroux. C'est chez Glénat Jeunesse. Franchement...
Et l'illustrateur.
Illustrateur aussi, oui. Hervé Le Goff. À une époque où on met les petits des 2-3 ans devant des écrans, franchement... Les parents qui nous écoutent, je vous donne ce conseil. Achetez le livre de la jungle. On l'a encore, je vous dis, en plus essayé au bureau, si je puis dire, avec la fille de notre rédactrice en chef qui a 5-6 ans. Ils sont complètement accros. On ne met pas les enfants à 2-3 ans devant des écrans. Oh. On leur fait écouter des CD. Nous sommes d'accord, Marlène Jobert.
Ben alors, à qui dites-vous ça? Bien sûr.
Je sais que vous êtes très branché cuisine, poisson. Vous venez de nous parler de votre belle découverte de tourteau cette semaine. Vous allez régulièrement en Normandie faire le marché du côté de Trouville. Quels sont les poissons que vous aimez retrouver au marché?
J'aime bien les maquereaux.
Ah, poisson bleu, gras, riche en oméga-3, c'est excellent pour la santé. Vous le cuisinez comment?
Le maquereau?
Ouais.
Bêtement à la poêle.
C'est pas bêtement, c'est bien.
C'est bête, oui, avec des petites pommes de terre, très bonnes pommes de terre, c'est pas mal, hein, c'est vraiment bien. Avec un peu de ciboulette, oh là là, c'est bien. Et puis, qu'est-ce que j'aime bien évidemment le turbo, le bar. Ce sont mes poissons préférés.
Est-ce que vous avez partagé et communiqué le goût des poissons à vos filles, Eva et Joy?
Oui, oh bah Eva est complètement végane. Alors maintenant, c'est un peu de poisson, si, mais sinon plus de viande.
D'accord, donc déjà. Une belle tranche de saumon fumé, vous êtes heureuses toutes les deux, quoi.
C'est pas mal.
Hein, c'est pas mal. Est-ce qu'elles vous ont pardonné l'épisode du cartable aux sardines? Racontez-nous cette histoire.
Bon, alors évidemment, je voulais vraiment nourrir mes petites le mieux possible. Et plutôt que de leur donner du chocolat, des sucreries au goûter, un jour, j'ai fait une chose absolument épouvantable. Je leur ai mis des sardines dans un petit sandwich. Évidemment, ça a pué dans leur cartable. Elles ont eu honte, mais honte. Et moi, oh, je m'en suis voulu.
Et oui, ça empeste la sardine longtemps après le cartable. Elles se sont fait remarquer à l'école comme ça. Il n'y a pas eu de doute. Alors, on est en train de déguster le plat du jour de David Radgeber. Donc, revenons sur ce plat avec vous, David, parce qu'il est délicieux. C'est vraiment quelque chose, amis auditeurs, que vous pourrez refaire dès ce samedi ou dès demain à la maison. Un risotto avec des petites pâtes made in France, hein, David.
Absolument, absolument.
De la courge, c'est la saison.
De la courge, c'est la saison. Là, on est en pleine saison. J'ai tout est made in France.
Donc, vous avez démarré comme un risotto, quoi, cette histoire.
J'ai démarré comme un risotto avec un bouillon de poule bien aromatisé. J'ai fait brûler un peu les oignons, des carottes, une belle garniture aromatique. J'ai l'impression de me prendre pour Laurent Mariotte. Là, j'ai fait le petit plan d'équilibre.
Ben bravo. C'est vous le chef. C'est vous le chef, David Radgeber. Merci. Bravo. C'est très bon. Voilà, qu'est-ce qu'on boit avec ça, Olivier Pouls?
petite entorse au Made in France parce que Marlène Jobert est venue avec un petit cadeau.
Et elle, ah oui, une pépite.
Elle m'a remis un vin italien. Mais alors, le vin italien de sa fille, car votre fille Joy.
Ma fille voilà, Joy.
Produit du vin en Toscane.
Voilà, dont on ne parle pas beaucoup. On parle surtout d'Eva parce qu'évidemment, elle est connue maintenant partout. Mais Joy fabrique du vin.
Ah ben, on en a là, ça s'appelle le Concine. C'est un assemblage de différents cépages, des cépages d'origine française. Il y a du Cabernet Franc, du Cabernet Sauvignon et du Merlot.
C'est frais, il est
très
bien.
Très joli vin, très bel équilibre. Et je trouve que sur le plat, alors là, on a un accord franco-italien.
Oui, mais ça marche. Hein.
Mais ça marche très bien sur le plat de David.
C'est un risotto.
Ah mais c'est parfait. Clin d'œil à l'Italie. On est au Salon Made in France, mais bon, il y a un peu de France quand même dans cette bouteille. Puisque,
oh oui, voilà. Allez.
Ah, puis l'Italie et la France, c'est une grande histoire d'amour quand même.
En tout cas, c'est un très bel accord. Merci beaucoup de nous avoir apporté cette bouteille.
Eh ben merci. Redites le nom de l'appellation. Enfin,
du Crucine.
Voilà, le Crucine. C'est un vin de Toscane. Et,
on le trouve en France, Marlène.
Dans quelques restaurants.
On le trouve en France, dans quelques restaurants.
On commence à le trouver. Il y a quelques restaurants qui s'en sont accaparés et qui sont très contents.
Eh ben tant mieux. Alors, comment voyager sans sortir du territoire? Ne bougez pas, Olivier Pouls a la solution. Il va nous faire goûter aux délices du saké et du whisky made in France. Ce sera juste après ça. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag Europe 1. Bon samedi midi sur Europe 1.
On passe à table sur Europe 1.
C'est délicieux.
Remarque.
Laurent Mariotte.
Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait.
Merci Valérie Lemercier. De tous les arts, l'art culinaire est celui qui nourrit son homme. C'est Pierre Dac qui le dit. Et nous sommes d'accord. Nous sommes en direct du Salon Made in France avec notre invitée Marlène Jobert. Admirable conteuse avec, pour les fêtes, un livre à offrir aux enfants. Le livre de la jungle chez Glénat Jeunesse. Avec la voix de Marlène Jobert. Avec les voix de Marlène Jobert, dois-je dire. Ça doit prendre du temps parce que vous adaptez vous-même l'histoire. Et après, il faut vous mettre en enregistrement pour faire ce livre, ce CD.
Oui, oui. Cette année, ce n'est pas un conte que j'ai écrit, mais c'est un conte que je me suis amusée à adapter. Parce que c'est un conte que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune et que mes filles ont beaucoup aimé et que tout le monde
Elles ont eu de la chance, hein, vos filles, d'avoir une maman comme ça qui leur racontait des histoires le soir pour s'endormir.
Oui, mais elles trouvaient ça tout à fait normal, vous voyez. Il n'y a que les... ça fait des parties de la coutume, tous les soirs, j'inventais, j'improvisais une histoire.
Vous avez été élevé au conte, vous aussi, comme ça?
Pardon?
Vous avez été élevé au conte en...
Pas du tout. On ne m'a jamais raconté de conte quand j'étais petite.
C'est vrai
que, ouais,
c'était pas la génération, non, c'était pas l'époque pas, ouais.
Voilà, et puis j'étais l'aînée de 5 enfants, et bon, on n'avait pas le temps, on ne savait pas.
Et qu'est-ce que vous êtes permis comme liberté par rapport à l'histoire originale du livre de la jungle? On s'en éloigne fort ou on reste quand même, on va y retrouver nos petits en quelque sorte?
Je suis obligée de respecter Kipling. L'essentiel est là, mais je l'aménage, je le développe, je change un petit peu la fin quand même. Je me suis beaucoup amusée à le faire. Je ne voulais pas le faire. Ce sont mes éditeurs qui m'ont un petit peu forcé.
Mais c'est une bonne idée parce que c'est super. On est accro, même si on connaît l'histoire. C'est ça qui est génial avec le livre de la jungle.
Tout le monde en a presque un exemplaire à la maison déjà du livre de la jungle. Il y a eu plein d'adaptations.
Vous disiez que vos parents ne vous racontaient pas d'histoire, pas de contes le soir. Est-ce que vous avez en revanche des souvenirs de recettes familiales? Est-ce qu'il y avait de la transmission en cuisine dans votre famille, Marlène Jobert?
Ma mère est d'Afrique du Nord, donc le côté couscous, tout ça, championne. Mais sinon, le reste, je ne peux pas dire. Si, il y avait des tartes. Elle faisait des tartes avec des épinards et du chèvre.
Ah, des petites quiches comme ça?
C'était pas mal du tout.
Ah, c'est bien, c'est un bel accord. Épinards-chèvre, ça marche toujours. Oui. Alors, vous le savez, ici, on aime bien répondre aux questions que vous posez au 39-21. David Radgaber, qui nous a fait ce magnifique risotto à la courge, à la côte de bœuf de Normandie, ainsi que
à
la mimolette de Normandie.
Et de la crème aussi.
Est avec nous. Et, on est dans le Made in France complet. Là,
Oui. Et puis, il y a un côté un peu régression aussi, dedans. Hein, tu vois, il y a un retour à l'enfance, c'est sympa.
Oui, c'est crémeux, ça enrobe. Ouais,
voilà.
Effectivement, c'est régressif. Vous allez répondre avec nous, tu es en question des auditeurs, les questions aujourd'hui récoltées comme ça au micro de Julien Amat dans les allées du Salon du Made in France.
Bonjour, donc, je suis Dominique d'Evry et je voudrais savoir comment on peut rendre la préparation du quinoa un petit peu moins fade.
Ah oui, c'est vrai que le quinoa n'est pas forcément le truc le plus rigolo quand on en parle comme ça. Mais il y a des petits subterfuges quand même à faire. Tiens, David Radgaber, vous avez des idées? Parce qu'on fait du quinoa, on en joue, du quinoa made in France.
Ah ben, un quinoa, moi je le marie avec un chou-fleur un petit peu rôti et un yaourt fumé par exemple.
Oh, c'est un yaourt fumé?
Voilà, parce que...
Comment vous fumez le yaourt?
Ah ben, comment je fume le yaourt? Ben, dans un mini barbecue comme ça.
Oui.
Avec, je fais brûler un peu de bois de hêtre. Hein. Je rôtis mon chou-fleur. Et hop, j'ajoute mon yaourt juste à côté. Et juste avec la fumée, je mets le couvercle et ça le fume légèrement.
D'accord, le barbecue pour fumer. Moi, je fais des croquettes, tiens, avec le quinoa. Du chèvre émietté, un œuf, de la chapelure, du quinoa qui est juste cuit, un oignon botte. Je transforme ça en petites croquettes. Vous les mettez 30 minutes au frigo. Vous laissez reposer. Et ensuite, vous les faites revenir dans un petit peu d'huile d'olive à la poêle. Là, pour le coup, pour votre fille qui est végétarienne ou carrément végane, Eva Green, elle est végétarienne. Voilà, c'est ça. Végétarienne plus, on va dire. Voilà.
Elle a été végane, mais pas trop longtemps.
C'est ça, oui, on n'y reste pas. Il y a d'ailleurs c'est amusant, je ne sais pas si vous avez vu, aux États-Unis, il y a des anciens véganes qui sont devenus bouchers. Donc vous voyez, parfois on peut changer d'avis.
Comme quoi, rien n'est jamais perdu.
Ouais, oui.
Une autre question à laquelle nous allons répondre, et c'est votre question, Marlène Jobert. Est-ce que vous avez une question à nous poser sur laquelle on pourrait vous aider en cuisine, un truc, une astuce?
Sûrement plein, j'ai tellement de choses à...
Vous n'avez pas un truc avec le sel? Vous ne vouliez pas savoir quelque chose autour du sel?
Oui, oui.
Et le vin?
D'en mettre du sel, mais d'un seul coup, là, je me souviens plus.
La tâche de vin, on m'a raconté qu'un jour, vous avez renversé une bouteille sur quelqu'un.
Oui, oui, oui. Bon, un jour, je déjeunais dans un restaurant où les tables sont très près l'une des autres. Mmh. Et j'ai renversé mon verre de vin sur la chemise du monsieur qui était à côté, que je ne connaissais pas, bien sûr. C'était une autre table.
Oui.
Et le monsieur était furieux, furieux. Et je ne savais plus quoi faire. Et je lui dis, mais on m'a dit que du sel, c'était bien. Il me dit, mais pourquoi pas de la moutarde pendant que vous y êtes?
On aurait dû essayer la moutarde.
Il était méchant.
Il était colère.
Ah oui.
Il était colère. Mais alors on s'est renseigné, le sel ça marche pas, vous savez.
Pas du tout.
Non, ça marche pas du tout.
Vin blanc, non.
Le vinaigre d'alcool.
Ah oui,
le vinaigre d'alcool,
soi, oh,
bah,
hein.
ça coûte rien, c'est 90 centimes, on en a une. Non, sur soi, c'est pas facile à transporter parce que c'est une grosse bouteille. Olivier Pouls.
Il y a une meilleure solution, c'est de le boire, le vin.
Ah oui, alors.
Voilà, c'est ça, voilà. Le mot de la fin, exactement.
Le vin sur la chemise du monsieur, c'est pas facile. Mais, oui, non,
peut-être qu'en l'essorant, on peut le récupérer, non?
Non, mais franchement, est-ce qu'il y a un truc?
Bah, je vous dis le vinaigre d'alcool, mais à part ça, c'est le pressing.
Vinaigre,
hein,
d'alcool.
Ouais, vinaigre d'alcool, ça marche.
Ah ouais.
Nous sommes en direct jusqu'à midi et demi avec Marlène Jobert. Et non, on va vous découvrir, Marlène, de l'autre côté de la fourchette dans un instant avec le questionnaire des bons vivants. Puis on va revenir sur les alcools made in France avec Olivier Pouls. Ce sera juste après ça. A tout de suite, bon samedi midi.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette dernière partie. Marlène Jobert est notre invitée en direct du salon Made in France à Paris, à la Porte de Versailles. On va trinquer ensemble au saké dans un instant, mais avant on aimerait mieux vous connaître côté vin, Marlène Jobert. On vient d'apprendre donc que votre fille Joy fait un vin en Toscane, en Italie, que nous sommes en train de goûter, qui est délicieux. Vous êtes plutôt rouge ou blanc?
Plutôt rouge.
Plutôt rouge. Est-ce que vous avez eu de belles découvertes? Vous avez tourné avec les plus grands, on le disait, Chabrol, Godard. Vous avez tourné avec des gens qui aiment la table, avec Depardieu, avec Belmondo, Claude Brasseur.
Ah, surtout Chabrol.
Chabrol, racontez-nous.
Chabrol choisissait ses tournages, ses lieux de tournage en fonction des restaurants qu'il y avait autour.
C'est pas une légende,
c'est
ça.
C'est pour vous dire à quel point. Audiard aussi. Michel Audiard aimait bien aussi la bonne bouffe.
Est-ce qu'il y a eu de jolis souvenirs à table aussi avec Depardieu, avec Brasseur, avec ces gargantuas du cinéma?
Ah oui, ce sont des gens qui vraiment pouvaient traverser la France entière pour aller se donner rendez-vous dans un restaurant superbe.
C'est votre cas aussi?
Non, j'aime ça, mais pas jusque-là.
Vous aimez la cuisine japonaise, Marlène Jobert?
Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eva et moi, on connaît 2-3 restaurants japonais formidables.
Elle est fine.
Il y en a des formidables aussi, avec de la cuisine très, très saine, et ce qui est absolument assez rare.
Allez-y, vous êtes venu avec votre liste.
Il y en a un, par exemple, qui s'appelle le Septime.
Chez Septime, oui, dans le 11e arrondissement. Alors, c'est français, mais effectivement d'inspiration japonaise, oui.
Et le chef qui a que 37 ans.
Bertrand Grébeau, oui, absolument, ouais. Qui est un très bon chef.
Oui, il est formidable.
Qui a été encore récompensé cette semaine avec le fooding, oui, absolument. C'est, oui, c'est une table qui fait partie du fooding.
Il y a aussi le grand cœur, rue du Temple.
Oui, absolument.
Dans le centre de danse du Marais.
Voilà, exactement, c'est une belle table.
Sans cette cour, on entend de la musique, on entend des... C'est très, très agréable.
Maro Collet-Gréco. Alors, c'est l'heure des 2 minutes du vin, mais comme nous sommes au salon du Made in France, on va passer en revue les alcools Made in France avec vous, Olivier. On va goûter des alcools d'ailleurs, mais Made in France. Qu'est-ce que ça veut dire, alors?
C'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant. Alors, contrairement à l'Armagnac, au Cognac ou au Grand Vin qu'on connaît, qui sont des appellations d'origine protégée qu'on ne peut pas copier ailleurs, il y a un certain nombre d'alcools dont les noms qu'on connaît bien, évidemment, sont des noms génériques, finalement. Whisky, gin... vodka, saké, ce sont des choses qu'on peut produire partout, y compris en France.
Mais alors le gin, ça vient d'Angleterre, le saké du Japon, on est bien d'accord jusqu'à là.
Japon, oui, effectivement. Alors évidemment, ce sont les pays d'origine, mais on peut finalement le produire ailleurs. Et par exemple, le whisky, depuis une bonne trentaine d'années en France, on en produit. Il y a plus de 50 distilleries de whisky aujourd'hui en France, il faut le savoir.
Oui.
C'est plus qu'un phénomène de mode, c'est quelque chose qui aujourd'hui s'ancre vraiment et on a un savoir-faire.
Alors vous avez plein de bouteilles devant vous, expliquez-nous, il y a du whisky, donc du gin, du saké, là c'est le whisky.
Voilà, alors petite dégustation pour vous tous avec modération bien sûr, parce que sinon on va avoir du mal à repartir. Donc là je vous ai apporté un premier whisky, c'est un whisky single malt qui est originaire de Moselle. Donc, vous savez, le whisky, en fait, c'est de la distillation de céréales qui sont maltées ou non. Donc là, c'est un single malt. Vous allez voir, c'est plutôt réussi, c'est équilibré. C'est un joli whisky français, donc, 100% made in France. Alors, ça n'a pas le caractère tourbé qu'on peut trouver dans certains whiskies, par exemple...
Irlandais.
Mais il y a, je trouve, quelque chose...
Ah, il est délicat, oui.
C'est très délicat.
Ah, il est très délicat.
C'est un très joli whisky.
Petite note sucrée, dites donc, c'est marrant.
Whisky Saint-Patrick. Alors... Chose, on en parlait à l'instant, le gin, là aussi, je vous ai apporté...
Très à la mode, le gin. Hein.
Très à la mode, alors on le sert...
L'alcool, je parle.
Oui, absolument. Mais on l'emporte toujours aussi. Hein.
Oui.
Alors, du gin français de la maison Christian Drouin, c'est un gin qui est produit dans le Calvados. À l'origine, ce sont des producteurs de Calvados qui se sont diversifiés. Alors, le gin, c'est évidemment le genièvre qui aromatise cet alcool, un certain nombre d'épices aussi. La recette n'est pas complètement donnée au départ. Une distillation de pommes.
Mais ça sent la pomme.
Alors, il y a un peu de...
On est chez Audiard, Marlène Jobert. Ça sent la pomme.
Hein? Ah non, ça sent la pomme.
Ça sent la pomme, allez-y, sentez le gin.
Comme dirait l'autre, il y en a.
Il y en a un petit peu. Ah ouais, c'est marrant,
voilà,
ça.
Exactement. Et c'est aussi un produit d'une très belle finesse qu'on peut même boire sans le transformer en cocktail, entre guillemets, parce qu'il y a une vraie finesse. Et puis pour terminer, ça c'est vraiment l'originalité, c'est la première fois que j'en goûte, c'est du saké français, figurez-vous.
Ah ça c'est incroyable.
Alors c'est fait avec du riz de Camargue, parce qu'en Camargue on cultive beaucoup de riz, c'est un riz spécifique. C'est fait avec la collaboration de grands maîtres de saké japonais et c'est vraiment très intéressant, c'est wakase. Et je pense que dans les temps qui viennent, on va en entendre parler.
Eh bien, merci Olivier, on mettra les références sur europe1.fr. C'est l'heure du questionnaire des bons vivants, Marlène Jobert. On va passer sur le grill avec nos différentes questions. C'est parti. Quel est le goût de votre enfance, Marlène?
Mes parents d'origine très modeste n'avaient pas tellement de connaissances sur les délicatesses gustatives ni diététiques. Hein. Alors c'était un peu n'importe quoi.
C'est le goût du n'importe quoi. Votre plus beau repas, tiens Marlène Jobert.
Écoutez, celui que mon éditeur Jacques Glénat offre chaque année lors de son dîner des chefs. De bout en bout, c'est une régalade des papilles gustatives. Chaque plat est cuisiné par un grand chef, alors imaginez.
Il sait recevoir quoi.
Alors quant au vin, je ne vous en parle pas.
Et votre pire repas?
C'est pendant les voyages en avion, il y a des compagnies qui vous proposent des repas absolument épouvantables. Cela dit, ils ont fait des petits progrès hein, quand même un peu.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Marlène Jobert?
Mes amis très proches hein, qui apprécient comme moi les plats sains, fins et légers. Qui enthousiasme les papilles et qui me font rire, beaucoup rire.
Ah, il faut rire à table.
Donc, j'ai besoin de ça.
Ah oui, on a besoin de rire. Oui, on a bien ri aussi ce matin à la table des bons vivants. Et le dernier plat que vous avez cuisiné, Marlène Jobert, c'était quoi?
Une salade Gifoutou.
Ah, la fameuse salade. Vous mettez quoi dans votre salade Gifoutou alors?
Je l'ai appelée Gifoutou parce que j'y fous vraiment tout.
Du maïs, de l'avocat?
Hein, oui, du maïs, de l'avocat, de la, des feuilles de chêne, de la roquette, de la...
La laitue.
Un petit peu de tomate.
Un peu de laitue pour le croquant.
Non, si j'ai la salade...
La roquette, ça suffit.
Salade de chêne.
Salade de feuilles de chêne, oui.
Ça va.
Et le mot de la fin, FIM, Marlène Jobert.
Écoutez, mon estomac ne plaisante pas hein, quand il est en demande. Alors, en général, je ne le fais pas attendre parce que ça le met de mauvaise humeur.
Ah, ben oui, alors on ne va pas vous faire attendre. Mais vous avez eu ce qu'il fallait à manger, rassurez-nous. Mais
le problème, c'est que j'ai accepté un déjeuner tout de suite après. Je vais en faire deux.
Vous déjeunerez deux fois comme Jacques Chirac. Et merci Marlène Jobert d'être venue à la table des bons vivants. Je rappelle votre livre compte avec le CD, Le Livre de la Jungle, paru chez Glénat Jeunesse. Une belle idée cadeau, ça part de 5 ans pour les fêtes de Noël. Ne mettons pas nos enfants devant les écrans à partir de 2-3 ans. On leur fait écouter de jolies histoires racontées par Marlène Jobert. Merci Marlène Jobert.
Mais merci à vous.
On était ravis de vous recevoir. Merci à Lucie Lescouroux, Julien Amat de m'avoir aidé à préparer cette émission. Mon cher Olivier Pouls et ma chère Charlotte Langrand, on vous retrouve bientôt. Agnès Vaudin à la programmation. Jean-Luc Arblade à la programmation, à la réalisation plutôt. Fabien Duchesne, Julien Or, Olivier Desche, ici au Salon du Made in France à Paris. Merci à vous pour votre fidélité. Vous connaissez l'adresse pour le podcast, c'est europe1.fr. On se retrouve la semaine prochaine au Studio Coluche à Paris et nous serons avec le camarade Laurent Baffy. Bon samedi midi les amis, faites le marché, la cuisine et le reste aussi.
Et bonne semaine.
Et bonne semaine, bon week-end Justine.